Eh bien, de retour pour la deuxième partie de Onde Noire. Donc, nous allons recevoir via le téléphone la magie de l'Internet de Jean-Marc Lahrer qui va nous parler d'un
roman.
Je
te coupe parce que, voilà, je voulais simplement rappeler, on a été obligé de terminer vite parce qu'on aurait pu passer des heures avec Nadège Agulo. Je voulais rappeler les titres de deux romans dont on a parlé un petit peu plus longuement, hein, dans les premiers titres parus chez Agulo Édition. Donc je rappelle Ruizink, Z-I-N-K. Puisque ma prononciation est vraiment improbable. Donc, l'installation de la peur. Et puis, un livre de Vladimir Lorchenkov qui s'appelle Le dernier amour de Petrescu et qui nous emmène dans un pays qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, c'est la Moldavie. Et donc, maintenant, on va accueillir Jean-Marc Lahrer. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
Donc, vous nous emmenez en Espagne, je crois. Enfin, je crois.
Oui, enfin, alors là, il faudrait peut-être même préciser en Catalogne.
Ah oui, pardon.
Oui, c'est presque prendre position,
nous sommes ce soir avec un roman qui s'appelle Société Noire, d'un romancier de Barcelone, donc, qui a été à un moment pas mal publié en France. Il est presque, un peu plus jeune, mais presque de la génération de Ledesma et Montalban. C'est un des fondateurs du polar barcelonais. Et puis, on n'avait plus entendu parler de lui depuis le roman. C'est Andreu Martín. Et donc, si je dis Catalogne, c'est que Société Noire est publié chez Asphalt et est traduit du catalan par Marianne
Milon. Voilà, c'est du
catalan. Voilà, par Marianne Milon. Donc, cette Société Noire se déroule, bien entendu, à Barcelone. Et ça commence en mardi 22 mai, et il est dit dans le livre, 2 jours après le braquage. Donc, on sait qu'il y a eu un braquage, et qu'on est 2 jours après, et le corps d'une femme décapitée est retrouvé dans une rue de Barcelone. Et puis, peu de temps après, les policiers découvrent le corps d'un homme qui a eu la tête et les mains tranchées, et puis encore une famille entière massacrée. Alors, la rumeur de la ville attribue ces meurtres aux triades chinoises, alors que qui serait au conditionnel en train de s'installer à Barcelone. Et pourtant, les quelques témoins qu'il y a, eux, ils parlent de deux brutes qui ont des signes, des tatouages et qui sembleraient les faire appartenir aux Maras et des gangs ultra-violents d'Amérique centrale. Donc, on commence à entendre parler un peu. Bon, tout ça, c'est le point de départ. Et puis, il y a un inspecteur, bien sûr, il y a un flic, c'est l'inspecteur Cañas, qui est persuadé, lui, qu'il a cette idée en tête, que les triades sont en train de s'installer à Barcelone et qu'elles veulent se venger d'avoir été cambriolées. Tiens, voilà le cambriolage qui revient. Et puis, il a quelques infos, parce qu'il a un indique qui s'appelle Liang Wan. En fait, c'est un père espagnol et mère chinoise qui a des infos de première main et qui lui a dit qu'effectivement, il a parlé de triade, il a parlé de montée de triade. Voilà, ça c'est le point de départ et il va falloir quand même un petit peu de temps, de sueur, de larmes pour comprendre ce qui au départ était la simple enquête de Cañas sur les traces de ces fameuses triades, qui existent ou pas d'ailleurs, on verra, peut dégénérer dans une telle bain de sang. Voilà pour le résumé. Alors, ça paraît très très sombre, mais en fait, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle. Pas tout le temps, mais il y a des moments où c'est drôle. C'est que Andreu Martín, il a la patate pour son âge. C'est, on s'ennuie pas une seconde. C'est mené à un rythme effréné, avec une très très belle maîtrise de la construction et des flashbacks et du temps, puisque donc on est donc 2 jours après le cambriolage, mais on va se retrouver parfois avant le cambriolage, et puis on va se retrouver bien sûr pendant le cambriolage. Et il passe d'un temps à l'autre, d'un personnage à l'autre, du flic à l'indique, et finalement tout ça déjà c'est un immense plaisir de lecture. Et puis c'est d'autant plus un plaisir de lecture, c'est comme les grands, hein, comme les meilleurs, on va dire, les meilleurs jongleurs ou les meilleurs magiciens, il fait tout ça avec le sourire, on a l'impression que c'est facile et que tout coule de source. Alors on sourit, malgré le passage de la description d'un massacre à un jeune homme amoureux, mais qui veut pas tomber amoureux, ou et même l'inquiétude d'un père pour sa fille qui a disparu, et puis au passage aussi l'exploitation des travailleurs clandestins, enfin la mondialisation, les marchandises chinoises qui arrivent à Barcelone, enfin tout ça. Et il arrive à faire tenir tout ça dans son intrigue qui part à toute vitesse, à laquelle on s'en tourne les pages, et on arrive à la fin, et en plus c'est convaincant. Donc c'est le pied.
Finalement. Oui, comme vous disiez, parmi les plus grands, il faut dire que c'est un très très bon écrivain. C'est vrai qu'on n'avait plus de nouvelles de lui depuis un certain moment, et c'est vrai qu'on connaissait plus une veine moins ironique, un petit peu plus noire, à part peut-être dans ses nouvelles. Il y avait des nouvelles hilarantes dans un recueil, mais c'est vrai que c'était les premiers romans qui étaient traduits, parce qu'il y a toute une série plein de romans qui sont pas encore traduits, André ou Martine. Donc on espère qu'Asphalt va avoir un beau succès avec celui-là.
Et oui, parce qu'alors il est pas très vieux, il est de 2013, donc il faut croire que en prenant de l'âge, il a toujours quand même une vision aussi acérée de la société, mais il y a mis un brin d'humour, un brin de distance, et tout en restant, en gardant une belle empathie pour ces personnages aussi.
Et apparemment, ça lui va très bien.
Ça lui va très bien. Alors je ne sais pas où sont passés tous les autres romans. Est-ce qu'ils sont en attente d'être traduits quelque part? On ne peut que l'espérer.
Oui, ben on l'espère, parce que voilà, on a très bons souvenirs, et ce serait, c'est vraiment. Et puis voilà, il représente aussi une mémoire de la Catalogne et du peuple espagnol, tel que on suit tellement bien nous le décrire, comme vous disiez, les Desma ou d'autres qui Montalban, qui maintenant sont malheureusement disparus. Donc Andreu Martín fait nous encore de grands livres et de très bons romans.
Voilà.
Et vit longtemps surtout.
Le trait d'union entre ces précurseurs et puis la nouvelle génération, parce qu'il y a une vraie belle génération à Barcelone. D'ailleurs, je crois que c'est Carlos Sanón qui a dit que pour lui c'était une des grandes inspirations.
Carlos Sanón, qui est aussi publié chez le même éditeur, dont on trouve les titres chez Asphalt aussi. Très bon éditeur d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Marc. On retrouve d'autres conseils sur votre blog, Actu du Noir.
Oui.
Merci beaucoup, puis à très bientôt.
Bonne soirée et bonjour à Yann alors par.
Voilà, dans quelques minutes après un petit morceau de musique, on passe à l'ami Yann. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc pour la musique, nous allons écouter un morceau du dernier album de David Crosby, celui de Crosby, Stills, Nash & Young, de son nouvel album, donc je disais qui s'appelle Searchlight, donc c'est le phare. Le morceau que nous allons écouter s'appelle Drive Out to the Desert. Bon, une petite promenade dans le désert, on ne sait pas trop pourquoi, mais espérons que ce ne soit pas aussi macabre que ce que dit Andreu Martín. Mais en fait, pourquoi j'ai choisi ce morceau? On aurait pu passer le dernier Leonard Cohen, mais bon, il est un peu sombre. Et en fait, c'est parce que David Crosby, il joue sur des guitares Martin. Et donc, j'ai pensé qu'avec Andreu Martín, ça faisait un lien tout à fait...
Bien sûr, on ne tire absolument pas sur la ficelle.
Pas du tout.
Voilà, allez, place à la musique.
Place à la musique. David Crosby.
To the desert, sail out on the sea, away from the city. Where the light hides the sky, and the stars fear to fly, and your eyes finally see. Find a space that's quiet and lie down on your back, ground and center. Till the troubles have fled and they cease their attack. And if you start to that's a very good sign. It means that your perception
The radio's reception is working fine. Et bien voilà, c'était David Crosby dans un album assez bizarrement, enfin du moins à ce qu'on vient d'entendre, produit par le bassiste de Snarky Punk. Et nous accueillons donc maintenant...
Yann, bonsoir Yann.
Bonsoir.
On vient de parler avec Jean-Marc Laherrère d'un livre qui se passait à Barcelone. Je crois qu'on va rester dans le sud avec vous Yann.
Oui, on va aller faire un tour en Corse.
Ce qui est assez rare d'ailleurs, enfin tout au moins littérairement parlant et dans la littérature noire tout du moins.
Tout à fait. Et en plus, ça va être pour un western.
Un western en Corse, remarquez, avec les paysages et la garrigue, ça peut le faire. Alors, on va commencer par donner le nom peut-être du roman.
Alors, il s'agit de Orphelin de Dieu, de Marc Biancarelli.
Et donc, on va tout de suite citer, j'allais faire une mauvaise blague, le traducteur, parce que c'est un Corse, mais c'est vraiment pas malin. C'est franchement pas malin. Et donc, on va citer l'éditeur, avant tout.
Donc, c'est édité chez Actes Sud et ça vient de reparaître en poche.
Donc, dans la collection Babel, si je ne m'abuse.
Voilà.
Voilà, et donc, pourquoi vous avez choisi de nous parler de ce roman? C'est donc qui vous a beaucoup plu, Yann?
Oui, tout à fait. Alors, il m'a beaucoup plu, ben, déjà, par cette idée de faire un western, vraiment, en Corse. C'est un roman qui s'ouvre, d'ailleurs, avec, au début, une citation extraite du roman True Grit, de Charles Portis, qui a été adapté il y a quelques années par les frères Cohen.
Les frères Cohen.
Et ben on a un peu le même motif de départ, hein, c'est-à-dire une jeune fille qui va embaucher un tueur pour retrouver des hommes, d'autres tueurs en fait, qui s'en sont pris à son frère et qui lui ont coupé la langue.
Et donc, l'omerta.
Ah oui. Une omerta assez radicale en l'occurrence.
Effectivement, oui.
Et donc, voilà, cette jeune fille va, tant qu'à faire, essayer de trouver le plus impressionnant des tueurs. Elle va s'adresser à un vieil homme qui s'appelle Ange Colomba et qu'on surnomme l'Inferno, qui est vraiment un tueur légendaire et qui n'a pas trop envie de la suivre, en fait, au départ, qui n'a pas envie de travailler pour elle, qui n'a peut-être plus envie de tuer. Il est lui-même au seuil de la mort. Et finalement, il va se laisser entraîner, mais en échange, il va lui raconter sa propre histoire et comment il est devenu l'homme qu'il est devenu. Donc derrière tout ça, on va avoir tout un propos sur la vengeance, un arrière-fond aussi historique sur la Corse qui est vraiment bien fait. Et puis, il y a l'écriture de Marc Biancarelli qui alterne vraiment entre des fois la sécheresse, vraiment, et des moments extrêmement lyriques. C'est une très très belle écriture. Ça donne un roman vraiment fascinant.
Et donc, l'idée du western, donc, on voit par rapport à la vengeance, par rapport à... Mais souvent, les westerns, c'est dans des grandes contrées, dans les grands espaces. On part du nature writing. Et là, quand même, la Corse, c'est tout petit.
Oui, mais Biancarelli a réussi vraiment à donner cette idée de... Alors d'espace, alors effectivement, hein, il y a ces moments clos, et puis surtout il montre aussi la Corse sous un autre jour. C'est vraiment la partie montagneuse, mais aussi la côte infestée de moustiques ou ces villes paludisme. C'est aussi la côte toscane, hein, puisqu'en fait, quand l'Inferno va raconter sa vie, hein, il fait partie des derniers paolistes, en fait. Et d'une bande comme ça qui sont devenus au fur et à mesure, hein, qui de révolutionnaires, libérateurs sont devenus petit à petit des brigands et qui s'exilent régulièrement en Toscane, hein, pour commettre aussi leurs méfaits quand ils doivent fuir la Corse, et qui sont poursuivis par les gendarmes, puis par les voltigeurs qui sont des Corses embauchés par l'État pour poursuivre d'autres Corses. Et on a vraiment une atmosphère qui fait penser souvent assez western crépusculaire qu'on peut trouver dans la littérature américaine récente. Hein, en particulier, on pense de suite à Cormac McCarthy, à son Méridien 200.
Donc, il y a cette idée c'est vraiment de belles références. D'ailleurs, ça donne envie de lire ce roman, puisque entre True Grit et Cormac McCarthy, quand même, les références sont élogieuses, on va dire.
Ah oui, oui, et puis elles sont amplement méritées. Il y a vraiment cette envie de démythifier aussi, hein, puisque la question de la vengeance qu'on a tendance, bien sûr, à toujours associer à la Corse.
Hein, oui, bah on a la fameuse nouvelle de Mérimée, et puis c'est toujours cette idée, le couteau entre les dents, et on y a toujours quelque chose à venger par l'histoire de l'arrière-grand-père qui a tué l'âne, qui a tué du voisin, je pense que l'auteur passe un petit peu derrière tous ces clichés, justement.
Voilà, il les retourne, il les met à mal, et il montre que, en fait, les hommes qui tuent, comme l'Inferno, sont plus le produit de l'histoire, plutôt que d'avoir ça dans le sang.
Et... ce qu'il a est un thème régulièrement abordé justement dans le roman noir, dans les westerns aussi, mais dans le roman noir aussi, beaucoup. Donc.
Oui, tout à fait. Et il y a d'ailleurs, je vais me permettre de vous lire un tout petit passage qui,
volontiers.
Qui dit ça et qui donne une idée un peu de l'écriture de Marc Biancarelli. Donc c'est l'Inferno qui parle et il explique ceci. Les guerres d'indépendance, quand c'est chanté par des poètes, ça va. Mais quand on les vit en vrai, on n'a pas envie d'en faire des chansons. Mais à la vérité, on n'était plus des héros depuis longtemps. On était des salopards, ouais. Le drapeau, on l'a laissé au pays, et après il a fallu survivre. Et nous, on savait faire que la guerre. Et à la guerre, tu tues des gens. En fait, t'apprends pas grand-chose d'autre. Tuer, voler, passer de ville en ville, s'enfuir encore, plus loin, à chaque fois plus loin. Et au bout d'un certain temps, tu as oublié pourquoi tu fais ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sais pas faire autre chose. Et donc... Voilà. Un peu l'explication.
On a laissé quelques secondes de silence parce que c'est un très très beau passage. Bon, je dois dire quelque chose, Yann. Franchement, oui. L'accent corse, c'est pas ça. Hein.
Non, j'y suis pas encore. Ça viendra.
Non, il va falloir encore travailler un petit peu quand même. Hein.
Est-ce que vous savez s'il a écrit d'autres romans, ce monsieur Biancarelli?
Oui, Marc Biancarelli, en fait, il est enseignant de Corse. Et il a écrit plusieurs romans qui sont parus alors chez des éditeurs corses, mais aussi chez Actes Sud, donc. Et il a aussi écrit des poèmes, il me semble.
Ce qui explique peut-être le lyrisme que vous évoquiez tout à l'heure dans son style.
Oui, tout à fait. Et il a écrit donc en français, en corse. Donc il y a certains livres en corse qui sont traduits en français. Et il est notamment traduit quand ça s'est traduit en français. Il est traduit par Jérôme Ferrari, qui est un autre auteur.
Qui est aussi un autre auteur qui a commis dans le noir aussi, corse.
Voilà.
Yann, on va rappeler donc le titre du roman et l'éditeur, donc l'éditeur Actes Sud Collection Babel, titre du roman.
Orphelin de Dieu, de Marc Biancarelli.
Marc Biancarelli, merci beaucoup Yann, et comme je disais tout à l'heure, on retrouve beaucoup d'autres chroniques sur votre très joli blog Encore du Noir. Merci beaucoup Yann, à bientôt.
Merci à vous.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée aussi à nos auditeurs, chacun dans son coin avec un bon bouquin pour la prochaine fois. À bientôt.
Au revoir, et dans une quinzaine de jours, trois semaines plutôt.
Le mois de novembre est long cette année.
Le mois de novembre est long, donc
à bientôt.
Vous avez eu le temps de lire un peu plus comme ça.
À bientôt, bonsoir.